France Inter. .fr.
We weren't the nice boys they thought we were. We aren't nice boys. We were fucking nasty little bastards.
Pop, etc. Avec Valley sur France Inter.
Et c'est Sid Vicious, membre des Sex Pistols, qui ouvre Pop, etc. ce soir. Nous sommes en 1977. Le gouvernement travailliste est au pouvoir. Les promesses de campagne dirigées à la classe ouvrière ne sont pas tenues. Le chaos social s'exprime dans tout le pays, y compris dans la musique. L'arrogance des Pistols, leurs vêtements déchirés, leur graphisme iconique, nous paraissent aujourd'hui comme un vaste plan de marketing bien huilé. Mais que nenni, bien au-delà de ces signes extérieurs de rébellion, c'est leur voix, la voix du milieu prolétaire, qui résonne dans une Angleterre en crise. Le No Future, message de leur single God Save the Queen, n'est pas un simple slogan punk, mais un triste constat de ce qu'on inculque dès la maternelle aux classes populaires. T'as aucune chance, tu n'as qu'à accepter ton sort et vivre ta vie. C'est la première fois dans l'histoire de la musique pop que le mal-être d'un peuple s'exprime par le biais d'un groupe. Leur seul et unique album, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, est sorti il y a tout juste 35 ans, le 27 octobre 1977, chez Virgin Records. Le guitariste Steve Jones a déclaré récemment « Pour comprendre l'époque, la musique des Sex Pistols est parfaite ». Il est mon invité ce soir dans Pop, etc., aux côtés d'autres témoins qui ont côtoyé de près ce groupe sulfureux. Julian Temple, le réalisateur de deux films sur les Sex Pistols, le journaliste Nick Kent et le designer photographe Pierre Benin. Les Sex Pistols seront signés sur trois labels différents. Le premier EMI et les Vire après leur premier single, Anarchy in the UK. Trop de mauvaise presse et ça ne faisait que commencer. Sex Pistols.
I thought it was a UK or
I think most of these groups would be vastly improved by sudden death. The worst currently are the Sex Pistols. They are the antithesis of humankind. The whole world would be vastly improved by their total and utter non-existence.
L'idéal pour ces groupes serait la mort subite. Les pires sont les Sex Pistols. Ils sont l'antithèse du genre humain. Le monde aurait tout à gagner à leur anéantissement. C'est Bernard Brooke Partridge, en 1977, membre conservateur du conseil municipal de Londres à propos du mouvement punk, extrait du documentaire « L'obscénité et la fureur » du réalisateur Julian Temple. Il est mon invité ce soir aux côtés de Nick Kent et du guitariste du groupe Steve Jones. Julian Temple a réalisé deux films sur le groupe, The Filth and the Fury en 2000 et The Great Rock'n'Roll Swindle, la grande escroquerie du rock'n'roll en 1980. C'est un faux documentaire écrit du point de vue de leur manager Malcolm McLaren. Temple rencontre les Sex Pistols à l'âge de 21 ans. De passage à Paris au printemps dernier, il m'a raconté la scène en bon cinéaste.
Well, I had a very strange time.
Ma rencontre avec les Sex Pistols était assez étrange. C'était en 1975. J'avais l'habitude d'aller à East End, à l'est de Londres, sur les docks désaffectés. Ces docks étaient les plus grands du monde depuis des siècles. Ils avaient été fermés quelques années auparavant, mais ils n'avaient pas encore été démolis. C'était comme un port fantôme, très beau. Tu pouvais t'y balader surtout le dimanche, il n'y avait personne, juste le vent qui faisait voler les journaux. Un dimanche d'été, j'y suis allé et j'ai entendu une chanson portée par le vent. C'était un titre du groupe Small Faces. J'étais un grand fan quand j'étais gosse. J'ai suivi la chanson car ce n'était pas très à la mode de jouer les Small Faces. Je l'ai suivi jusqu'à une espèce d'entrepôt. La porte était ouverte, je l'ai poussée. Les lieux étaient très vieux. J'ai monté des escaliers délabrés jusqu'en haut et je me suis retrouvé dans le grenier duquel j'avais une vue d'ensemble sur ces personnages extraordinaires. Ils étaient en silhouette contre la fenêtre. Ils avaient l'air d'hommes abeilles venus de l'espace. Ils portaient des pulls en mohair à grosses rayures jaunes et noires. Ça leur donnait des torses énormes. Ils ressemblaient vraiment à des abeilles. Ils avaient des jambes toutes minces, noires. À cette époque, tout le monde portait les pattes def, mais eux portaient des jeans slim. Ils avaient des grands pieds qui couinaient parce qu'ils portaient les fameuses chaussures creepers des Teddy Boys. Et pour couronner le tout, ils avaient des cheveux dressés en pointe sur la tête. C'était une vision étrange. Bizarrement, je me suis dit, ça c'est extraordinaire. Et ils ne faisaient que répéter. Bien sûr, je venais d'un milieu différent. Ils ont mis beaucoup de temps à m'accepter. Socialement parlant, il y avait des luttes de classe très fortes en Angleterre à cette époque, encore aujourd'hui à vrai dire. Mais vous voyez la classe ouvrière, eh bien les Sex Pistols étaient bien plus bas, bien plus pauvres, c'était presque des parias. John Lydon a vécu dans un cabanon sur la plage à Hastings en plein hiver parce que c'était moins cher et qu'il était irlandais d'origine. Steve Jones vivait dans des bagnoles dans les rues de Soho. Ils étaient dans une situation très extrême. C'est pour ça que leur voix était aussi puissante, parce qu'elle venait d'un endroit qui n'avait pas le droit de citer jusqu'alors dans la musique pop commerciale. Et c'est ça qui était si excitant.
Julian Temple dans Pop, etc. Submission figure sur l'album des Sex Pistols. Je vous propose d'écouter la maquette du titre enregistrée dans leur local de répétition sur Denmark Street à Londres.
I'm on a submarine mission for you, baby. Feel the way you work it. You up on my TV screen and hear your undercurrent flowing. Submission, I'm going
Pop, etc. avec Valley sur France Inter. Johnny Rotten était l'intello autodidacte. Il n'avait pas vraiment fait d'études, mais il était très brillant. Il lisait beaucoup, il a tout appris tout seul, et il avait des pensées très profondes. C'était assez inhabituel. Donc ses paroles et son tempérament rendaient les Sex Pistols subversifs et dangereux. Et il avait ça en commun avec Sid Vicious, car ils étaient amis et ils avaient la même attitude. Steve Jones et Paul Cook étaient très différents. Leur goût en matière de rock était plus classique, y compris sur ce que doit être une rockstar. Mais il faut dire que Steve est quelqu'un d'assez unique également, totalement l'opposé de John. Lui n'était pas instruit du tout, mais il a fait son éducation dans la rue. Physiquement, il était très baraqué. C'était un gamin qui se bagarrait dans les rues. Il a grandi dans les bordels de Soho. Il a beaucoup d'esprit et il est très drôle, très pince sans rire. Et c'est rien de le dire. Très amusant, il a une émission de radio à Los Angeles qui marche très bien. Il est très doué pour l'humour. Vraiment un mec très très amusant.
Indie 1031. KDLD Santa Monica. KDLE Newport Beach.
This is the Independent FM.
Indie 1031.
You're listening to Jones's Jukebox 1031. See, you can't hear the birds because you ain't got your headphones on.
Oh, I'll stick them on then, eh?
Your volume there?
Oh, wow, okay. Yeah. Are they not on? Are they on? Yeah.
Oh, they are.
Very Parisian.
They don't sound very French.
No. They've got smelly armpits.
They smell French, then.
Bonjour. Bonjour. Oui, ça va. S'il vous plaît, humble.
C'est un extrait de l'émission Jones's Jukebox, animée par le guitariste des Sex Pistols Steve Jones sur la radio californienne K-Rock, en compagnie des frères Gallagher d'Oasis. Le réalisateur Julien Temple m'a parlé des relations à l'intérieur du groupe. C'était à Paris en avril dernier.
Steve Jones était un très bon faire-valoir pour John Lydon. Il ne savait ni lire ni écrire. Il ne pouvait même pas écrire son propre nom. Donc il s'est mis à jouer de la guitare en écoutant en boucle pendant 3 mois le premier album des Ramones. Il l'écoutait sans arrêt jusqu'à ce que ses mains soient en sang. Il s'est forcé à apprendre à jouer de la guitare et il s'est aperçu qu'il était doué pour ça. Et puisqu'il ne savait ni lire ni écrire, il a tout mis dans la guitare. Et c'est un son de guitare explosif. Ça a complété John d'une manière puissante. Je dirais que Steve Jones et John Lydon étaient la force créative et musicale des Sex Pistols. Les autres étaient un peu là pour la déco. Oui, c'était ça la personnalité du groupe pour moi. Steve et John, très différents, mais complémentaires. Sid Vicious ressemblait plus à John, mais sans cette intelligence démente. Il y avait du sang sur les murs à chaque fois qu'ils étaient tous ensemble. C'était très intense et très instable.
We're
Pretty Vacant des Sex Pistols sur France Inter, une réponse à la chanson de mouvement punk américain de Richard Hell and the Voidoys, Blank Generation. Sur la face B figure la reprise de No Fun by Iggy and the Stooges. Et dans la chanson Pretty Vacant, on entend Rotten qui prononce le mot vacant d'une manière de placer le mot cunt bien dans les oreilles de tous. Qu'importe s'ils étaient stigmatisés par la classe politique conservatrice en Grande-Bretagne à l'époque et interdits de jouer dans leur pays, Pretty Vacant a été diffusé lors de la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux Olympiques à Londres. Vive le patrimoine britannique. Le guitariste des Sex Pistols Steve Jones vit aujourd'hui à Los Angeles, des vacances au soleil qui durent depuis 30 ans. Il s'est plié à la promotion des éditions multiformat de l'album Nevermind the Bollocks qui vient de paraître chez Universal à l'occasion du 35e anniversaire de sa sortie originale sur Virgin Records et sur le label Barclay en France. Il m'a parlé des débuts du groupe.
Eh bien, c'est moi qui l'ai fondé, pour être honnête avec vous. Moi et Malcolm McLaren. Je traînais avec Malcolm à l'époque. Et puis j'ai fait venir Paul Cook, mon meilleur ami. On se connaissait depuis nos 10 ans. Glenn Matlock, lui, travaillait dans le magasin de Malcolm le samedi. Et on a décidé de monter un groupe. J'étais au chant au début. Et puis je me suis aperçu que je ne voulais pas chanter. Alors on a auditionné des chanteurs et je me suis mis à la guitare. Il a fallu que je prenne un cours express de guitare. À l'époque, je prenais beaucoup de speed et ça t'aide à te concentrer en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Mais c'est un bon moyen pour apprendre quelque chose.
Steve Jones, la légende raconte que le matériel sur lequel jouaient les Sex Pistols a été volé à David Bowie lors du concert d'adieu de la tournée Ziggy Stardust. Est-ce la vérité ?
Non. J'ai pas volé les guitares de la tournée de Ziggy Stardust. J'ai volé quelque chose, mais pas les guitares. Je peux pas vous dire quoi, on va m'arrêter.
Ah ben c'est trop tard, vous venez de le dire, et ça fait 35 ans.
Oui, je sais. C'était juste un ou deux micros, un ampli, des trucs comme ça. Mais pas de guitare. J'aurais jamais volé la guitare de Mick Ronson. J'étais fan de Bowie. C'était une manière bizarre et perverse de se sentir proche du groupe en volant leur matériel. Mais donc je ne voulais pas voler la guitare de Mick Ronson. Parce que je l'aimais trop.
John Lydon a été choisi pour remplacer Steve Jones au chant. Steve devient le guitariste du groupe. C'est lui qui trouve le surnom Rotten. Il m'explique la raison pour ce nom.
Ses dents étaient vertes en fait, donc je lui disais qu'elles étaient pourries, Rotten en anglais, et c'est resté. Évidemment, il a eu une importance primordiale sur la direction qu'a prise le groupe, son look et sa manière de chanter, et c'était principalement les paroles qui vous emmenaient complètement ailleurs. La première chanson qu'on a écrite, c'était 17. J'ai trouvé la musique et j'avais des bribes de paroles que John a changées, mais c'était la première chanson. Puis on a emménagé dans un nouvel endroit pour répéter à Londres, sur Denmark Street. Je me suis mis à vivre à l'étage. On répétait en bas. Et c'est là que le gros des chansons est venu. Avec Glenn et Paul, on balançait des riffs et John restait assis dans un coin et écrivait des paroles. C'est Glenn Matlock qui a eu l'idée pour Anarchy in the UK, Pretty Vacant et God Save the Queen. Il est revenu au studio avec une version brute et on a rajouté nos parties. Et puis John a écrit les paroles. Mais tout a été fait de façon assez systématique. On répétait tous les jours et c'est comme ça qu'on a accouché de toutes les chansons.
Joyce, it's what we want.
I'm a lazy sod, je suis un gland paresseux. Les Sex Pistols et leur titre 17, c'est la première chanson qu'ils écrivent dans leur studio de répétition à Londres sur Denmark Street. L'entente entre Johnny Lydon, alias Johnny Rotten, et les autres membres des Sex Pistols, Steve Jones, Glenn Matlock et Paul Cook, est loin d'être harmonieuse. Proches par leurs origines prolétaires, ils n'avaient pas la même vision du groupe ou de la vie en général. À 7 ans, Lydon perd la mémoire suite à une méningite. Il passe plusieurs mois à l'hôpital. C'est grâce à sa mère qu'il éduque en musique et en littérature qu'il s'en sort. Arrivé à l'adolescence, il remet tout en question, surtout l'autorité. Et ça ne change pas quand il est recruté par les Sex Pistols à 19 ans. Lydon veut casser le moule du rock'n'roll. Ils ne doivent pas se conformer aux règles passéistes dictées par l'industrie musicale. Mais il y a surtout des frictions avec leur manager Malcolm McLaren, dont la personnalité irrite Lydon. Le journaliste Nick Kent a joué avec la première mouture des Sex Pistols en 1976. Il se rappelle du tandem McLaren-Rotten.
Malcolm McLaren était un type très intéressant, très brillant. Mais il voulait être un artiste, mais il n'avait pas aucun talent. Donc, il a décidé que, OK, moi, je vais diriger les gens. Il avait des idées tout le temps. Et la plupart des idées étaient complètement folles, complètement ridicules. Mais il avait de l'énergie. You know, he didn't take drugs.
Il prenait pas les drogues.
Il était comme lui et Brian Eno, c'était le seul, les deux seuls mecs que j'ai connus pendant les années 70, qui ne didn't take drugs.
Il prenait pas les drogues.
Il avait un bon cœur au commencement. Then, son visage sur la couverture des journaux et son ego a explosé.
Il a pété les plombs dès qu'il est devenu célèbre.
Pour John Lydon. Mais on peut comprendre parce que John Lydon avait 18 ans. Si tu as rencontré John Lydon juste avant The Sex Pistols, c'était un mec différent, complètement différent. C'était un introvert, un mec timide.
Plutôt timide.
Un timide. McLaren était timide aussi. Le relationship with John Lydon and Malcolm McLaren, ça c'est la clé pour comprendre The Sex Pistols.
C'est la tension. C'est parce,
parce que McLaren a vu Lydon, il a dit, ah, c'est un mini-me. Un petit mec avec des cheveux rouges qui ne sait pas exactement son sexualité, que peut-être je suis, you know, qui était une virgin,
tu comprends,
qui avait des problèmes mentaux. Et il a dit, I can mold, je peux sculpter, je peux prendre ce mec comme un morceau de bois et sculpter quelque chose. And version mini de moi.
I didn't think if I could be a sculptor, I necessarily needed clay. I suddenly thought you can use people. So creating something called the Sex Pistols was my painting, my sculpture.
You don't create me. I am me. There is a difference.
I mean, John Lydon était far plus malin. John Lydon thought for himself.
Oui, il pensait pour lui-même.
Et peut-être pour un mois ou deux mois, il a suivi les idées de McLaren. Mais à un certain point, il a dit, hey, assez de ça. C'est mon groupe. Parce que they didn't like each other. Steve Jones, Julian Glenn Matlock, Paul Cook, none of them liked John Lydon.
Aucun d'entre eux n'aimait Johnny Rotten.
Parce que John Lydon, il aimait reggae, les trucs un peu progressive rock. Et Steve Jones et le reste aiment le classic rock, the small faces et tout ça. Des goûts différents. Et John Lydon, he called them his backing group.
Mais il les prenait pour son groupe d'accompagnement, juste ses musiciens.
Devant eux.
Devant eux, exactement. Donc, c'était très difficile pour les membres du groupe de rester dans la même pièce. Mais en même temps, tous savaient que sans l'autre, ils étaient nuls. Mais au milieu de ça était McLaren. Et McLaren a réalisé que tout d'un coup, ce n'était mon groupe maintenant. C'est le putain groupe de cette Lydon. Et pour ça, il a dit, OK, I will show John Lydon just who, that what a small person he is.
Je vais montrer à John Lydon de quel bois je me chauffe, s'est dit McLaren à ce moment-là, quand il s'est rendu compte que ça lui échappait et qu'il ne pouvait pas les modeler à sa guise.
I will get his best friend, Sid Vicious, to join the group, and he will become the focus.
Je vais carrément engager son meilleur pote à Rotten, c'est-à-dire Sid Vicious, et c'est lui qui va devenir le point d'attraction du groupe, des Sex Pistols, et ce ne sera plus Rotten.
That's when it all went wrong.
Et c'est là que ça a commencé à vraiment foirer.
Because Sid Vicious couldn't play. Il n'avait pas du talent. John Lydon avait du talent.
Sid Vicious était incapable de jouer deux notes à la suite l'une de l'autre, là où Rotten avait du talent.
McLaren était un mec jaloux. C'était mon groupe. C'était moi qui a dirigé tout. Et ce petit mec, c'est un connard. That was when the Sex Pistols broke up.
Et c'est là que les Sex Pistols se sont séparés. Querelle d'ego.
There was only one cunt I wanted to smack, and that was Malcolm.
Le seul con que j'avais envie de baffer était Malcolm. Une petite idée de l'ambiance entre Johnny Rotten et le manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren. Une genre de crise de personnalité. C'est ce que chantait un autre groupe emblématique des années 70, managé par McLaren, The New York Dolls, Personality Crisis dans Pop, etc. The New York Dolls sur France Inter. Je raconte l'histoire des Sex Pistols et de leur album Nevermind the Bollocks qui fête ses 35 ans le 27 octobre. Mes invités sont le cinéaste Julian Temple, le journaliste Nick Kent et le guitariste des Pistols Steve Jones. Avec le premier single, Anarchy dans le UK, sorti en novembre 1976, dans lequel Rotten chante « Je suis un anarchiste ». Je suis l'antéchrist. Le groupe commence à faire parler de lui. Le bassiste Glenn Matlock, à l'origine de ce morceau, n'aime pas du tout ce jeu de mots. Rotten le lui rend bien. Il n'aime pas Matlock. Il est trop mièvre. Il aime les Beatles. Dans le film de Julian Temple, L'obscénité et la fureur, Steve Jones n'est pas fan non plus. Il dit « C'était évident que Matlock avait un problème. Il n'arrêtait pas de se laver. » Il est éjecté du groupe au profit de Sid Vicious avant même que l'album ne sorte, mais il a le temps de participer avec les autres à l'émission de télé Today. Les Sex Pistols remplacent à la dernière minute le groupe Queen. Ils attendent en coulisses avec un frigo rempli d'alcool qui vide. Accompagnés par leurs fans The Bromley Contingent, dont Suxi Sou, l'émission tourne au fiasco quand l'animateur Bill Grundy branche Suxi en direct. Ce qui incite Steve Jones à une tirade jurant digne d'un film de Quentin Tarantino. Il m'a raconté ce qui s'est passé au téléphone de Los Angeles.
Ce mec était un connard. Nous, on croyait qu'on allait là-bas pour parler de notre single Anarchy in the UK et de notre tournée qui commençait, mais il se foutait de nous faire parler de tout ça. Il voulait juste qu'on ait l'air d'idiot. Et il était bourré d'ailleurs. Il était juste odieux. Et nous n'avons fait que réagir à ses actions. C'est ça qui m'a fait jurer à l'antenne. On n'avait pas l'intention d'aller là-bas et de jurer, on a juste réagi. Il a eu ce qu'il cherchait.
Shit. Was it really? Good heavens, you frightened me to
death. All right. You dirty old man.
Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous.
You dirty fucker.
What a clever boy.
What a fucking rotter.
Well, that's it for tonight.
Well, definitely got a lot of...
Oui, c'est sûr. Passer dans cette émission nous a donné beaucoup de visibilité auprès du grand public. Que ce fût bon ou pas, j'en sais rien. Avant cette émission, On commençait déjà à être connus dans le monde de la musique, auprès des journalistes du New Musical Express, par exemple. Mais après le passage chez Bill Grundy, on a touché les médias grand public. Et ça, ça ne s'achète pas. Donc c'était super. Mais peut-être c'était trop et trop tôt, je ne sais pas.
On a déclaré la guerre à l'Angleterre sans le vouloir. Dixit, Johnny Rotten, dont les mots sont des armes. Malcolm McLaren faisait dans son froc, pour citer encore Rotten, mais le lendemain du passage des Sex Pistols à la télé, il faisait la une de tous les journaux. Le tabloïd The Daily Mirror affiche en gros « The filth and the fury », l'obscénité et la fureur. McLaren s'en frotte les mains. La publicité est inespérée, certes, mais elle ne plaît pas à EMI, qui les vire. Pour ajouter insulte à la blessure, comme disait ma grand-mère, leur participation à la tournée avec The Clash and The Damned est annulée. Pour pouvoir jouer, le groupe doit louer une boîte de striptease. Pierre Benin était journaliste pour Rock and Folk dans les années 70. Il est responsable de la venue des Sex Pistols à Paris en septembre 1976. Il m'a raconté l'aventure il y a quelques jours à France Inter.
Les Sex Pistols, je les ai connus parce que je connaissais Malcolm depuis 73, où on s'était rencontrés à Paris. À l'occasion, puisqu'il était manager d'un des premiers groupes excentriques pré-punk, on va dire, qui étaient les New York Dolls. 3 ans après, quand j'ai entendu parler des Sex Pistols, que je savais que c'était Malcolm qui était le manager, donc j'ai été remis en contact avec lui par le biais de Michel Esteban, qui était un garçon qui avait une boutique de t-shirts rock à Paris, puisque moi je cherchais en fait un groupe pour l'ouverture d'un club, une espèce de lieu mythique, mais pas pour les jeunes gens, hein, qui était un lieu mythique de la nuit parisienne, mais d'une nuit assez classique, on va dire, qui était le Chalet du Lac, qui se trouvait dans le bois de Vincennes. Ces gens qui s'appelaient les Moulacs, enfin, qui étaient de purs auvergnats et exploitants limonadiers, ce qui n'a rien de péjoratif, mais enfin bon, ils n'étaient pas vraiment versés dans le rock'n'roll, ni dans le punk rock, a fortiori. Et donc, eux avaient l'envie, enfin surtout le fils Jean-Michel avait envie de dépoussiérer cet endroit, de le rajeunir. Bon, c'était un conflit de génération ouvert. Et donc, il y avait un garçon qui s'appelait François Baudot, qui est décédé depuis, et qui journaliste, et qui connaissait un peu tout le monde, qui était à la croisée des chemins, et qui connaissait donc Stark depuis très longtemps, qui me connaissait depuis très longtemps aussi, connaissait David Rochlin, enfin toute une bande. Baudot avait réussi à imposer Stark, qui avait fait une décoration effectivement très étonnante.
Philippe Stark, donc.
Oui, oui, bien sûr, ouais, qui avait fait une décoration très étonnante, avec une scène qui lumineuse, qui en plus transitait, c'est-à-dire il y avait une translation de la scène qui vers le milieu de la piste de danse, donc la scène était modulable, l'endroit était modulable. Il y avait une énorme boule de tango à facettes, une énorme boule à facettes, mais très imposante, qui devait faire 2,50 m ou 3 m. Donc voilà, ça donnait quelque chose. C'était fait avec beaucoup d'humour, je trouve. L'idée de faire venir un groupe aussi iconoclaste et bizarre, dont évidemment personne ne savait rien, et encore moins les Moulacs, qui s'appelaient les Sex Pistols, évidemment, la juxtaposition de tout ça donnait quelque chose de très détonnant.
Alors, qui était présent, Pierre Benin, à ce premier concert des Sex Pistols, et peut-être le seul en France, si je ne me trompe pas.
Alors, il y en a eu deux, puis en fait, c'était les deux seuls concerts. Il y en a eu un le 3 septembre 1976, qui était donc pour l'inauguration du Chalet du Lac. Le concert étant très chaotique, dans le sens où il a eu lieu tard. Les peintures avaient été à peine finies dans la journée, donc il y a des gens qui se tachaient. Enfin, il y a un monde absolument fou. Il y avait 2000 personnes à l'intérieur, 2000 à l'extérieur, et il y avait évidemment toute une gamme de gens. Il y avait toute cette bande, en fait, de Stark, de David Rochlin, de plein de gens. Puis il y avait toute une bande d'anglais qu'on n'avait jamais vu, qui s'appelait le Bramley Contingent, qui comprenait d'ailleurs des gens qui ont fait des groupes de rock par la suite, des groupes punk, qui étaient Susie, par exemple, de Susie and the Banshees, qui était habillée de manière absolument extravagante, c'est-à-dire qu'elle avait un imperméable transparent avec des portes jartelles et donc un brassard avec une croix gammée. Tout ça a été assez mal pris. Donc, ce que je peux comprendre, mais c'était une provocation. Et donc, elle en a eu, ce à quoi elle s'attendait, en fait, d'une certaine manière.
Il y avait Billy Idol aussi.
Billy Idol, oui, il y a Billy qui est monté Generation X après, qui était là aussi. Voilà, donc Bon, puis il y avait beaucoup de journalistes quand même parisiens, beaucoup de cette scène de gens qui allaient au concert, qui très intrigués par à la fois le Chalet du Lac, le lieu, et par les Sex Pistols, dont tout le monde avait entendu parler, mais personne n'avait jamais rien entendu en fait. Il n'y avait pas de disque, il n'y avait rien. En fait, on ne pouvait s'appuyer que sur une réputation sulfureuse.
Love in a Void sur France Inter. Les Sex Pistols virent Matlock et embauchent le plus grand fan du groupe, Sid Vicious. On dit qu'il est l'inventeur du pogo, la danse qui consiste à sauter en l'air pour mieux voir le groupe qui joue. Il est aussi un ami de John Lydon. Il commence à répéter avec les Pistols, mais il ne sait pas jouer. Chris Thomas, le producteur de l'album, raconte qu'une fois que Glenn Matlock est parti, Steve Jones a joué les parties de basse et de guitare. On entend vaguement Vicious sur God Save the Queen. Quand le groupe enregistre au studio Wessex dans le nord de Londres avec Thomas, producteur de Roxy Music et de Pink Floyd et qui a travaillé auprès de George Martin sur les séances des Beatles, ils se rendent compte que Sid, leur nouvelle recrue, s'injecte quotidiennement de l'héroïne. L'origine de cette addiction est américaine, elle s'appelle Nancy Spungen. Le journaliste Nick Kent a partagé l'addiction à l'héroïne de Sid et Nancy. Il se souvient de ce couple et de leur mort précoce à 20 et 21 ans.
I had many conversations with Sid Vicious.
J'ai beaucoup parlé avec Sid Vicious.
When he told me that woman is fucking me up.
Et il disait à Nick elle me fout en l'air même.
Yeah, they had this Romeo and Juliet.
Ils avaient cette espèce de truc à la Roméo et Juliette.
Mais c'était une relationship built on heroin.
Mais c'était une relation basée sur la cam, basée sur l'héro.
Et aussi parce que la mère de Sid Vicious hated Nancy. Everybody hated Nancy.
La mère de Sid Vicious pouvait pas blairer Nancy. Personne pouvait blairer Nancy, de toute façon.
They brought the worst out in each other.
Et chacun des deux, Nancy, Sid et Nancy, avait l'air de susciter ce qu'il y avait de pire chez l'autre.
Il y a cette histoire entre moi et Sid Vicious qui est bien connue, la chaîne sur la tête et tout ça.
Il y a bien connue de où il s'est fait...
I never disliked the guy.
Oui, il s'est fait démolir par Sid Vicious à coup de chaîne à vélo, mais il n'a jamais, jamais détesté Sid Vicious.
He was too young. It's
et
like
il était
it's
trop
like,
jeune pour commencer.
It's like disliking that wall.
He wasn't an adult. Ça aurait été comme de prendre en haine le mur là en face de toi parce que bon, il n'était pas fini, il n'était pas formé. C'était pas un adulte.
He wasn't going to live.
Et ça se voyait qu'il allait pas vivre bien longtemps.
You know, you can count the minutes.
On peut presque compter les jours, les heures, les minutes avant qu'il claque.
C'était inévitable. Mais je sais que McLaren he had a nervous breakdown.
McLaren en a fait une dépression.
À cause de culpabilité. Parce que quand McLaren a mis quelqu'un si autodestructeur, like a psychopath, dans une situation comme le Sex Pistols, c'était comme de donner un mec un fusil et dire OK, you know, rob this bank.
Ouais, McLaren a mis un type qui savait être complètement psychopathe, Sid Vicious en l'occurrence, dans une situation elle-même explosive dans les Sex Pistols. C'était vraiment comme d'armer un gars et de lui dire allez, va braquer la banque là.
Rock and roll, man.
Liar, menteur, sur France Inter, dans Pop, etc. Après s'être fait virer par EMI, les Sex Pistols signent chez A&M, en grande pompe sur le parvis de Buckingham Palace. Leur single « God Save the Queen », d'après la première phrase de l'hymne national britannique, est sur le point de sortir. Mais au bout de 7 jours, le deal est avorté suite à une conférence de presse houleuse et au comportement peu galant des garçons envers certaines employées lors d'une fête organisée au bureau du label. Quelques 25 000 exemplaires du single sont détruits. C'est Virgin Records, label fondé par Richard Branson 5 ans plus tôt en 1972, qui les récupère. J'ai demandé au guitariste Steve Jones s'il pensait que leur manager Malcolm McLaren manipulait le groupe ou s'ils volaient leur argent.
Évidemment, quand on a commencé à recevoir des propositions de contrats de différentes sociétés, EMI, A&M ou Virgin, on n'a jamais vu la couleur de l'argent. Et je crois que c'est là que je m'en suis rendu compte. J'ai toujours eu une certaine tendresse pour Malcolm, parce qu'on était amis bien longtemps avant le groupe. Et je ne crois pas qu'il prenait l'argent pour le dépenser pour lui. Je crois qu'il s'en servait pour d'autres groupes, pour le film Rock'n'Roll Swindle, par exemple, mais il ne nous en a jamais parlé. Mais peut-être que c'était pas plus mal, au final, qu'on n'ait pas touché d'argent à l'époque, car on aurait sans doute acheté de la drogue avec et on se serait tué.
Extrait du titre EMI des Sex Pistols sur leur album Nevermind the Bollocks. Le groupe est haï, ce qui plaît très bien à John Lydon, même s'il ne peut pas se balader seul sans se faire tabasser à Londres. Interdit de concert en Angleterre, les Sex Pistols sont persona non grata aux États-Unis. Leurs visas leur sont refusés. Le single God Save the Queen, avec sa pochette mythique signée par le graphiste Jamie Reed, sort et il est aussitôt interdit à la radio. Les textes vont peut-être un peu trop loin. God Save the Queen, son régime fasciste. God Save the Queen, elle n'est pas un être humain. Il n'y a pas d'avenir pour le rêve en Angleterre. No future. Mais ça ne l'empêche pas à devenir numéro un des charts devant Hotel California des Eagles. Lors d'un concert sur un bateau privé sur la Tamise, organisé le jour du jubilé des 25 ans de la reine, le jour de la sortie d'ailleurs de God Save the Queen, les Sex Pistols et leur entourage sont arrêtés. La reine d'Angleterre, Steve Jones, tu te rends compte?
Je me suis toujours demandé si elle l'a entendu, God Save the Queen. Vous croyez?
J'en suis sûr.
J'aurais adoré être une petite souris. Si effectivement elle l'a écouté, pour voir sa réaction. Je suis sûr qu'un de ses enfants l'adore. C'est un dingue. Non, pas un de ses enfants, un des enfants de Charles. C'est Harry, c'est ça? Oui, lui, il doit l'adorer. Virgin Records signed them, and Johnny Rotten got to record his Queen's Jubilee Memorial song, God Save the Queen. On n'a pas écrit God Save the Queen parce qu'on n'aime pas la race anglaise, mais parce qu'on l'adore. On en a marre qu'elle soit maltraitée.
Potential hype bomb. God Save the Queen, Don't Pop, etc. Les tensions sont de plus en plus fortes au sein du groupe. Ils parviennent à se procurer des visas pour une tournée de 10 dates aux États-Unis en janvier 1978. Entre la mésentente du groupe devenue haineuse et l'addiction de Vicious, la tournée américaine des Sex Pistols est un désastre. Ils donnent leur dernier concert le 14 janvier à San Francisco, où ils ne jouent qu'une chanson avant de quitter la scène. L'histoire n'aurait duré que 3 ans. 35 ans après, le propos de l'unique album des Sex Pistols est malheureusement toujours pertinent. Malcolm McLaren déclare dans Libération en 1981 « Je suis fier d'avoir introduit une critique sociale et d'avoir ajouté le mot « anarchie » au vocabulaire des adolescents ». Merci à Steve Jones, Julian Temple, Nick Kent et Pierre Benin pour leur témoignage. Vous avez entendu des extraits de L'obscénité et la fureur, réalisés par Julian Temple. Le DVD est édité chez Studio Canal. Film fabuleux. On peut voir les photos de Pierre Benin prises chez Johnny Rotten en 1978 sur notre site. Toutes les infos sur cette émission y sont. Tapez franceinter.fr. Pop etc. a été réalisé par Antoine Dabrowski avec Ludovic Asselot. Elle a été préparée par Corinne Valente. La programmation musicale est signée Jubaka. Avant de vous retrouver en direct de Rock en scène, je suis ravie de vous donner rendez-vous vendredi prochain à minuit pour la nouvelle saison de Pop etc. Mon invité est Jean-Éric Perrin. À l'occasion de la sortie du recueil de ses chroniques « Frenchy but Chic » paru dans Rocky Folk entre 1978 et 1982. Très belle soirée sur France Inter, à tout de suite.